Merci à vous d'écouter RFI. Tout de suite, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Juliette Jacquemin, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Haïti face au départ de sa jeunesse. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'exil des Haïtiens vers le Québec, mais l'Amérique du Sud, elle aussi, accueille de nombreux immigrés. Alors comment faire pour remédier à ce problème général? Amélie Baron a posé la question au ministre des Affaires étrangères haïtien, Antonio Rodrigue. Une longue interview à retrouver dans quelques secondes. Donald Trump sous le feu des critiques après sa déclaration de ce week-end. Il a semblé renvoyer dos à dos les groupes d'extrême droite et les contre-manifestants après la mort d'une femme tuée alors qu'elle venait protester contre un rassemblement d'extrémistes. Et puis toute l'actualité des Outre-mer, c'est à retrouver à la fin de ce journal avec Tatiana Geiselman.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Que faire face au départ massif de la jeunesse haïtienne vers les pays d'Amérique du Nord, alors qu'ils visaient jusqu'ici plutôt les États-Unis? Les Haïtiens qui tentent leur chance ailleurs sont désormais très nombreux à entrer au Québec, des centaines chaque jour. Alors les autorités haïtiennes ont décidé de réagir. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, et celle des Haïtiens vivant à l'étranger se sont rendus la semaine dernière à Montréal. Antonio Rodrigue, qui à son retour a accordé une longue interview à Amélie Baron, il a d'abord tenu à rassurer les défenseurs des migrants choqués par sa visite canadienne.
Beaucoup, vraiment, ont exprimé leurs préoccupations quant à notre présence au Canada pour visiter ces migrants qui viennent d'arriver. Ça va compromettre leur dossier, leur chance d'obtenir l'asile au Canada. Donc moi, je leur ai fait comprendre que j'étais là pour prendre connaissance de la situation. Remercier aussi les autorités canadiennes pour leur bienveillance, l'accueil qu'ils ont réservé à nos compatriotes. Et aussi voir dans quelle mesure on peut aider. Parce qu'il y a des choses, je pense, que ces gens-là vont avoir besoin. Par exemple, passeport, pièce d'identité. Le problème, c'est pas une question qu'on est là pour bloquer la demande d'asile de ces gens-là, mais pour aider.
Est-ce qu'il n'est pas contradictoire, vous avez dit que vous étiez prêt à aider ces personnes si elles souhaitaient revenir en Haïti, avec le plaidoyer qui est fait auprès des États-Unis pour conserver le statut TPS? Il y a deux poids, deux mesures, peut-être.
Non, peut-être les gens ont mal compris. Nous sommes prêts à recevoir ces gens-là si on est forcé de le faire. Parce que si le Canada les expulse, c'est notre devoir d'accueillir nos citoyens.
Mais le président a dit pour les États-Unis que si le statut TPS n'était pas renouvelé, le pays n'était pas en mesure d'accueillir ces 48 000 Haïtiens vivant sous ce statut aux États-Unis. Il y a contradiction, non?
Il n'y a pas de contradiction. Écoutez, on n'est pas prêt parce que le président l'a dit. Ça fait à peine 6 mois que le président Moïse est en poste. Après le tremblement de terre il y a 7 ans, l'année dernière, on a eu ce fameux ouragan Matthew qui a fait des dégâts équivalents à 32% de notre PIB. Ce sera vraiment difficile pour nous d'absorber ces 58 000 personnes d'un coup. Mais, comme je l'ai dit, si on doit recevoir ces gens-là, on n'a pas le choix. On trouvera le moyen de les recevoir.
Il y a des migrants haïtiens donc dans le nord de l'Amérique, mais aussi d'abord dans le sud du continent. Au Chili, il y a plus de 45 000 Haïtiens qui ont émigré depuis le début de l'année. Il y a dans ce pays une nouvelle loi sur la migration qui va être étudiée en septembre. Est-ce que vous avez un dialogue avec votre homologue chilien pour déterminer ce qu'il va en advenir de ces citoyens, de leurs droits?
Concernant le Chili, c'est vrai, on a un exode. Il semble que là maintenant, au Chili, l'économie s'échauffe et qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est une aubaine pour les Haïtiens. Mais concernant cette loi, selon les discussions qu'on a eues avec le Chili, au plus haut niveau, c'était quand la présidente, Mme Bachelet, était en visite ici, elle avait bien dit que le Chili allait régulariser la situation des Haïtiens qui se trouvent là-bas. Donc nous, on n'a aucun problème, aucun souci là-dessus.
Cela fait des années, vous dites un exode, et c'est le cas, que des jeunes diplômés s'en vont, mais quotidiennement par centaines du pays. C'est une preuve de la crise économique structurelle. C'est un aveu d'échec pour un gouvernement.
Qui vient d'arriver? Non, vous ne pouvez pas le dire. Au contraire, le gouvernement qui vient d'arriver déploie tous les efforts pour redresser la barre, pour remettre le pays sur les rails du développement, créer des emplois et faire en sorte que la situation des Haïtiens s'améliore.
Est-ce que vous comprenez ces jeunes diplômés qui entendent les discours de relèvement économique portés par le gouvernement, mais qui, eux, ne veulent pas attendre et, comme on dit, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont, ils quittent le pays coûte que coûte?
Bon, c'est ça, ils ne peuvent pas attendre, ils ne veulent pas attendre parce qu'ils ont attendu longtemps. Comme ils trouvent des cieux plus cléments, comme ils trouvent des ouvertures dans d'autres pays, ils s'en vont là-bas. Mais nous continuons à travailler et on pense que les résultats qui vont arriver, ça va faire comprendre à ceux qui sont encore là que vraiment on peut attendre et soyons plus patients et jusqu'à ce que les choses s'améliorent.
Mais parallèlement à votre discours, il y a le président qui annonce du renouveau et du changement en matière d'émigration, un passeport pour tous, disponible sous 5 jours. C'est un appel à l'émigration.
Non, c'est pas l'émigration. C'est un devoir du gouvernement, c'est un devoir du pays de doter les citoyens des pièces d'identité.
Il n'y a pas seulement le passeport. Il y a la carte d'identité nationale avant un passeport.
Il y a la carte d'identité nationale, il y a les extraits d'archives, c'est tout ça. Ce sont des choses dont le citoyen a droit. Il a droit à ces choses-là et jusqu'à présent, c'était très difficile pour l'avoir. Bon, si quelqu'un veut avoir le passeport, on peut partir. Écoutez, on est un pays libre. Vous voulez partir, on ne va pas vous forcer à rester. Mais on va travailler pour de manière à ce qu'il y a quelque chose qui vous retienne au pays.
Et comment retenir justement ces jeunes? Comment éviter cette fuite de cerveau qui dure depuis des années maintenant en Haïti et qui pénalise le développement du pays?
Création d'emplois et surtout d'emplois pour les jeunes, ce que le gouvernement est en train de faire à travers la recherche d'investissement, à travers les travaux d'infrastructures qui pourraient créer des emplois pour les jeunes, pour tout le monde.
C'est un discours qu'on a entendu des précédentes administrations. Il y a un cynisme peut-être chez les jeunes qui se disent « ce sont toujours les mêmes rengaines ».
On a une nouvelle administration, on a un nouveau président, un nouveau gouvernement avec une volonté déterminante de changer les choses. C'est pour ça, caravane du changement. Les discours, c'est vrai, mais le président ne reste pas seulement à faire des discours. Il est partout, sur tous les fronts, donc ce n'est pas seulement des discours. D'ailleurs, le président, il fait peu de discours, il agit.
Il parle peu, effectivement, et il agit peut-être à la place des ministres. On ne voit pas les ministres et le Premier ministre.
Bon, il prend le lead de la tête, mais le Premier ministre et les ministres travaillent également. Ils donnent le ton et l'agriculture fait ce qu'il y a, les travaux publics et l'environnement et tant de choses. Même les affaires étrangères, il est sur tous les fronts. Voilà. C'est un président dynamique, il bouge beaucoup, il fait tout ce qu'il peut pour changer les choses dans le pays.
Merci, monsieur le ministre.
Je vous en prie, merci.
Voilà le ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue, une interview réalisée par Amélie Baron. Charlottesville en Virginie refuse de devenir un quelconque symbole pour l'extrême droite américaine. La ville a été le théâtre d'une grande violence ce week-end avec le rassemblement d'ultra-nationalistes, des violences qui ont suivi la mort d'une femme lorsqu'une voiture a foncé sur le groupe de contre-manifestants où elle se trouvait. À Charlottesville aujourd'hui, c'est la stupeur et l'émotion qui prédominent à New York. Grégoire Pourtier.
Si les extrémistes se sont rassemblés plusieurs fois à Charlottesville cette année, ce n'est pas parce que c'est un foyer de racistes et de xénophobes. Au contraire, c'est parce que son conseil municipal, démocrate, a voté le déboulonnage de la statue d'un héros confédéré. Comme James Fields, venu de l'Ohio après avoir grandi dans le Kentucky, les identitaires ont donc afflué en ville pour défendre la mémoire du général Lee, héros de la guerre de sécession qui a dirigé les troupes des États esclavagistes. Fields était lui ce week-end un simple soldat dans cette armée de militants d'extrême droite, une armée car il portait parfois des armes en bandoulière ou à la ceinture. Le jeune homme de 20 ans, lui, a utilisé une voiture pour tuer une personne et en blesser une vingtaine d'autres. Des photos le montrent dans la journée, portait un bouclier aux côtés de miliciens néo-nazis et un de ses anciens professeurs avait déjà noté sa fascination pour Adolf Hitler. Néo-nazis, Ku Klux Klan, confédérés, ces groupes prennent des formes différentes et une bonne partie des sympathisants n'est pas affiliée officiellement. Mais Trump a libéré encore la parole et sans doute les promoteurs du rassemblement de samedi, intitulé « Unifier la droite », espéraient créer un mouvement encore plus vaste. Grégoire Pourtier, New York. RFI.
Et bonjour Véronique Guémard.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour la revue de presse, la presse américaine qui revient largement sur ce drame et surtout sur la polémique suscitée par les déclarations pour le moins floues de Donald Trump.
Oui, des centaines de personnes se sont recueillies à Charlottesville dimanche en mémoire des blessés de Heather Heyer, âgée de 32 ans, tuée lorsque le chauffeur a foncé dans la foule antiraciste, relève le Daily Progress. Elle est morte à cause du terrorisme blanc, du suprématicisme blanc, s'émeut un des organisateurs de cette contre-manifestation. manifestations. Le président Donald Trump, en effet, a condamné ces violences des deux côtés, et pas nommément celles du camp des suprémacistes blancs, ce qui a choqué, y compris dans son propre camp. C'est la haine dont il n'ose pas parler, titre l'éditorialiste du New York Times. Les néo-nazis ont entendu le message de Donald Trump haut et fort et l'ont même remercié. Après les attaques, Trump a consulté ses conseillers. Il leur a demandé de condamner ces nationalistes blancs qui ont attisé la violence. Mais lui ne l'a pas fait, lance l'éditorialiste. À ce propos, fait-il remarquer, on n'a pas entendu non plus son stratège, Steve Bannon, dont les théories nationalistes sont relayées sur son site Breitbart News. Pourquoi Trump ne peut-il pas dire ce qui est évident, se demande Politico, qui rappelle les petites phrases racistes prononcées depuis 1976 par des républicains qui leur avaient coûté leur poste. Selon Politico, c'est surtout parce que Trump n'a aucune référence politique. Pour Trump, le passé n'existe pas, il n'y a que lui et le présent. Et s'il ne condamne pas le sectarisme, c'est parce qu'il n'a aucune référence du poison qui s'est infiltré dans notre pays.
À noter que la chancelière allemande Angela Merkel s'est exprimée sur la question. Elle dénonce des violences répugnantes. Pendant ce temps, le vice-président américain Mike Pence est lui arrivé hier à Carthagène, en Colombie, pour une visite officielle où il a rencontré le président Juan Manuel Santos. Et entre les deux hommes, il a été question de la crise au Venezuela.
Oui, le président Juan Manuel Santos et le vice-président Mike Pence ont évoqué les sujets attendus, comme le post-conflit en Colombie, le trafic de drogue et leurs relations commerciales, mais aussi cette réponse à donner à la crise vénézuélienne, souligne Semana. Suite à la déclaration tonitruante de Donald Trump au cours de laquelle il disait ne pas écarter une option militaire contre Caracas, Juan Manuel Santos, lui, a déclaré à Mike Pence qu'une action militaire ne devait pas être envisagée.
Nous partageons avec le vice-président Pence, avec le président Trump, notre préoccupation, celle de la région et du monde, à propos de ce qu'il se passe au Venezuela. Mais comme les amis doivent être honnêtes entre eux, j'ai dit au vice-président Pence que la possibilité d'une intervention militaire ne devait pas être envisagée. En Colombie, en Amérique latine, du sud du Rio Grande à la Patagonie, personne ne serait d'accord avec cela. L'Amérique est un continent en paix, faisons en sorte qu'il le reste.
Et le vice-président Mike Pence n'a pas écarté, lui, la solution militaire, mais il a répondu « Nous ne permettrons pas que le Venezuela tombe entre les mains d'un dictateur », retient El Nacional. Il a assuré que les États-Unis continueraient à aider le peuple vénézuélien qui souffre et qu'il espère y parvenir de manière pacifique avec les pays d'Amérique latine.
Et de son côté, le gouvernement vénézuélien, lui, ne veut pas baisser la garde.
Oui, sur son compte Twitter, le ministre de la Communication et de l'Information, Ernesto Villegas, appelle les Vénézuéliens à se rassembler ce lundi à 9h du matin pour une marche anti-impérialiste contre la menace militaire brandie par les États-Unis, rapporte Ultimas Noticias. Selon le Washington Post, les dernières tensions et le fonctionnement parallèle de l'Assemblée constituante font planer le spectre d'une guerre civile au Venezuela.
El Tiempo revient aujourd'hui sur les tensions le long des quelques 2200 kilomètres de frontière entre la Colombie et le Venezuela.
Oui, des tensions qui durent depuis près de 2 ans, rappelle le quotidien colombien. Des milliers d'habitants de Cúcuta ont perdu leur travail, notamment dans le secteur des transports. La Chambre de commerce prépare un rapport qui montre que 1200 personnes sont désormais au chômage, sans compter les emplois indirects qui ont été touchés, ce qui augmente le travail informel, fait remarquer El Tiempo.
En Argentine, c'était jour de vote. Hier, des primaires en vue des législatives. À l'arrivée, une large victoire pour le camp du président Mauricio Macri. Mais dans la province de Buenos Aires, c'est beaucoup plus serré. Après un long suspense, l'ex-présidente Cristina Kirchner est même au coude à coude avec son rival. Le récit de cette folle soirée avec Aude Villiers-Moriamé.
Ce n'est pas un hasard si Cristina Kirchner a choisi Sarandi pour y installer son QG ce dimanche. Les habitants de cette banlieue populaire de Buenos Aires sont restés fidèles à l'ancienne présidente. Agustina Diaz et ses amis attendent Cristina Kirchner depuis ce midi.
Cristina doit revenir. Avec elle, on allait bien. Le gouvernement actuel, lui, a menti à tout le monde. Il nous a tout pris. On n'a pas assez d'argent pour survivre.
Les élections primaires ont surtout une valeur symbolique puisque la majorité des partis ne présente qu'une liste électorale. Une sorte de premier tour qui permet de mesurer la popularité de chacun. À 21h, les premiers résultats tombent.
Cambiemos en tête avec 36,86%, Unidad Ciudadana 30,18%.
C'est d'abord la désillusion pour les partisans de Cristina Kirchner. Au niveau national, le parti de l'ancienne présidente arrive derrière Cambiemos, la coalition de centre-droite au pouvoir. Mais au fil de la soirée, l'écart se resserre dans la province de Buenos Aires. Cristina Kirchner reste invisible, mais l'un de ses lieutenants, Leopoldo Moro, se veut très confiant.
Personne n'a gagné ou échoué pour l'instant, on doit encore attendre.
Avec si peu d'écart, Cristina Kirchner est presque assurée d'obtenir en octobre l'un des deux sièges de sénateur de la province de Buenos Aires. Haute-Villers-Moriamé, s'arrondit. RFI.
Voilà, reportage réalisé avant l'annonce des derniers décomptes. Véronique Guémard, la presse argentine revient aujourd'hui sur les résultats serrés dans la province de Buenos Aires.
C'est une bataille serrée, titre d'ailleurs La Nation. Finalement, Bullrich, le candidat de Cambiemos, le parti présidentiel, donc, remporte de quelques centièmes seulement la province de Buenos Aires dans ses primaires qui donnent déjà une orientation de ce que seront les élections en octobre prochain, indique Clarín. Cristina Kirchner, elle, a critiqué le manque de communication sur ses résultats, poursuit le journal. Mais pour l'éditorialiste de La Nation, ces primaires ont surtout révélé la chute du péronisme avec Sergio Massa loin derrière. Ils n'ont conservé que les provinces du Chaco et de San Juan. Selon lui, la population s'est lassée des énormes scandales de corruption des années péronistes.
Merci Véronique Guémard d'avoir été avec nous pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bonjour Tatiana Geiselman.
Bonjour Juliette.
Grosse frayeur pour trois Guadeloupéens cette nuit. Une partie de leur maison s'est effondrée dans l'océan.
Et oui, l'incident s'est produit dans la commune de Capesterbello, au sud-est de l'île de Basse-Terre. Vers 4h du matin, un grondement sourd réveille tout le voisinage. Une des maisons du littoral vient d'être partiellement engloutie par la mer. Un incident qui souligne une nouvelle fois l'importance des plans de prévention des risques que de nombreux habitants ne veulent pas respecter. Nadine Fadel.
Les trois adultes à l'intérieur, dont un homme âgé, ont vu une pièce de leur maison se détacher lentement et partir dans la nuit. Ils étaient dans une pièce en retrait. Une vingtaine de mètres carrés de leur espace de vie a ainsi été tronqué et gît dans l'eau de mer à 4 mètres en contrebas de son emplacement d'origine. Fred Narounan, voisin natif de Sainte-Marie-Capesterbello.
La maison qui est tombée là, il y avait beaucoup de terrain derrière. Il faisait son jardin et tout. Tous ces morceaux de blocs de béton, c'est tombé. Ce qui serait... Je crois intéressant, c'est de faire un enrochement. Mais comme j'avais suggéré ça, ils ont dit que ça coûtait énormément cher. Donc, on ne peut rien faire.
Une parcelle qui, normalement, ne devait plus être habitée. La municipalité a ordonné son évacuation de longue date. Mais c'est sans compter sur la ténacité des occupants. Joël Beaugendre, maire de Capesterbello.
Il y a déjà un peu plus de 20 ans, une première maison disparaissait. Nous avons fait une réunion avec l'ensemble des riverains pour leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils restent là. Nous avions à ce moment-là arbitré avec les services de l'État pour pouvoir les recaser. Ils n'ont pas voulu sortir.
Un arrêté municipal dès hier a interdit l'accès à la zone. Plus le choix, les riverains concernés par le risque d'effondrement ont été évacués vers une annexe de la mairie à Bananier en attendant un déménagement en bonne et due forme.
Nadine Fadel pour Guadeloupe Première. Et on reste en Guadeloupe avec cette menace de grève des salariés du GPAP, le groupement pétrolier d'avitaillement de Pointe-à-Pitre. Par solidarité avec leurs collègues de Martinique, en grève depuis mercredi dernier, ils pourraient eux aussi arrêter de recharger les avions en kérosène. Il reste quelques jours de vacances au Guyanais, l'occasion de découvrir le tambour. Instrument traditionnel de la Guyane, le tambour revient à la mode depuis une vingtaine d'années. Kylian Saibou a assisté à une séance d'initiation pour enfants.
À l'office de tourisme de Cayenne, les petits tambouillins s'essayent au rythme traditionnel avec l'animatrice Betty Serin.
On a vu le grager. Nous avons vu aussi le camouguet. Et le lérol.
Et pas de cacophonie dans le cours de Madame Serin. Les enfants écoutent bien le rythme et essayent de le reproduire.
Le petit bois, j'en fais depuis que j'ai 4 ans.
Tu peux écouter ?
Parents et accompagnateurs sont ravis de l'initiation. Les enfants très investis s'appliquent dans la pratique du tambour.
C'est vrai que c'est pas évident, mais avec les enfants, on arrive à faire beaucoup de choses. Ils observent beaucoup, ils ont l'écoute aussi. Donc je trouve que ça passe bien.
Les petits tambouillins ont jusqu'au 25 août pour se perfectionner à la pratique du tambour.
Tambour levé !
Un reportage de Kylian Saibou pour Guyane Première. Très bonne journée à tous.
Très bonne journée à vous aussi. Et merci Tatiana Geiselman. Merci aussi à Florian Dubois à la réalisation de cette émission aujourd'hui. Émission à réécouter sur le site internet www.rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.
Choqué par la teneur de mon dernier texto.
Ménélique.
Le gars, c'est mieux car je osais réclamer mon liquide.
Que l'enflure se dise mon pote, que je l'appelle et qu'il ne réponde pas. Y'a bien des chances pour que ce soit lié au liquide.
Guts and Vita Science.
RFI.